m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
avec courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Amis du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition de Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, en partenariat avec Valeurs Actuelles, avec L'Incorrect, avec Boulevard Voltaire, avec Le Monde Moderne d'Alexis Poulain. À la veille de deux votes importants ce mardi sur le budget de la sécurité sociale, et notamment la fameuse suspension de la réforme des retraites, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Léon qui publie le livre noir de l'argent public aux éditions Hugo Doc. Nous le recevons à un moment donc, où notre pays semble vivre un effondrement progressif de tous les services publics, justement, malgré cet argent public, où le débat parlementaire s'intéresse plus aux différents moyens d'augmenter encore nos impôts plutôt qu'à s'attaquer enfin à l'hémorragie des dépenses publiques. Et à travers une centaine de cas documentés et malheureusement accablants, Jean-Baptiste Léon donc fait le point sur une situation qui semble objectivement inextricable. Mais heureusement, à la toute fin, il nous propose quelques pistes pour redresser la situation. Il semble vouloir nous dire, un peu comme Pierre Mortez, Thierry l'ermite dans Le Père Noël est une ordure, que le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Alors pour cela, si j'ai bien compris, il faudrait quelques qualités que nos élus pourraient commander pour Noël. Du discernement, du courage, de la volonté. C'est pas gagné quand même, hein. On va en parler dans pas longtemps, mais nous parlerons ensuite des délires indigénistes de Ouria Boutelja, on l'avait annoncé la semaine dernière, qui nous explique avec sa rhétorique extraordinaire que si les jeunes racailles d'origines immigrées sont homophobes, c'est à cause des colonisateurs blancs. Mais c'est aussi à cause des jeunes homosexuels, enfin des homosexuels tout court, d'ailleurs jeunes ou vieux, blancs et bobos, qui ne font rien qu'à provoquer les jeunes en revendiquant, je cite, leur visibilité. Donc l'invisibilité, voire la disparition de l'espace public des homosexuels petits bourgeois blancs, aurait donc cet immense mérite de mettre fin à l'homophobie des banlieues. Et il fallait y penser. Et ça pourrait enfin enterrer ce triste héritage colonial et homophobe dont les jeunes musulmans de cité sont les premières victimes. Voilà, c'est passionnant. Ça se passait sur une chaîne indigéniste et queer que j'ai découverte pour l'occasion et on va vous en parler également dans un instant. Nous reviendrons aussi sur l'incroyable feuilleton de la main occulte où l'on voit le diabolique grand maître de l'organisation réactionnaire secrète, Arthur de Vatrigan, tomber aux mains de la police avant de revenir se venger en profitant de la puissance des ondes de Radio Courtoisie pour martyriser le service audiovisuel public sans défense sous les yeux horrifiés de ses victimes de prédilection, Thomas Legrand, Patrick Cohen, vêtu de probité candide et de lin blanc. Nous nous reposerons de cette séquence émotion en parlant ensuite d'un vrai démocrate, d'un homme de paix, d'un homme de bonne foi, Jean-Luc Mélenchon, car voilà un homme de bonne volonté, confronté à l'extrême droite parlementaire, qui voudrait l'interroger sur les liens fantasmés, évidemment fantasmés, comme dirait l'autre, entre l'islamisme et les partis politiques. Jean-Luc, moi je l'appelle Jean-Luc, s'est rendu samedi à son audition devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Il s'est soumis à l'interrogatoire du fascisme parlementaire, mais n'a pas dévié de son idéal républicain. Évidemment, je le cite, que son mouvement n'acceptera jamais l'antrisme religieux. Ça allait sans dire, Richard de XVI. Évidemment qu'il veille, je le cite toujours, en vieux laïcard, à assurer la séparation du spirituel et du temporel, de la carpe et du lapin, de son cul et de la commode. Nous en parlerons donc dans un instant, et puis retour sérieuse ensuite avec l'amende que la Commission européenne vient d'infliger au réseau social X, anciennement Twitter donc, accusé de violer X, donc oui, ses obligations de transparence. Alors que penser de cette réaction ? Faut-il interpréter comme une réaction justement de souveraineté numérique face à un géant para-étatique ? Et finalement ce serait une bonne nouvelle. Ou plus prosaïquement, comme la volonté de l'extrême-centre de censurer un vecteur de liberté d'expression. notre cœur balance, on en parlera. Et en tout cas, pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir les contribuables de la réinformation avec Richard de Seize, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie.
Bonjour.
Arthur de Vatrigan, grand maître de la main occulte et directeur de l'Incorrect.
Bonjour.
Alexis Poulain, directeur du Monde Moderne.
Bonjour.
Xavier Van Lierde, journaliste. Il nous manque Jean-Yves Le Gallou, mais il m'a dit qu'il arriverait avec 3 minutes de retard. Donc, il est président de Polémia et en retard. Et enfin, donc Jean-Baptiste Léon, qui est le responsable des études, je crois,
des publications. Comme
voilà.
Vous voulez, c'est pas très grave.
Un contribuable associé. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez, vous aussi, participer à cette émission. Vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse suivante, courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou tout simplement téléphoner au numéro suivant, le 0146 51 00 85, 0146 51 00 85. Alors, Jean-Baptiste Léon, merci d'être avec nous ce soir.
Merci à vous.
Alors, nous vous recevons, donc, puisque vous publiez le livre noir de l'argent public, donc c'est sous-titré « Les secrets d'un État en faillite » chez Hugo Doc, et on va essayer de voir avec vous donc, l'état des lieux de ces gaspillages d'État, et puis évidemment les solutions pour mieux gérer l'argent public et ne plus spolier les Français que nous sommes, et notamment les contribuables. Alors, vous publiez, je trouve, un livre vraiment cruel, non, c'est vrai, au sens où vous nous jetez comme ça à la figure les mille et une manières dont l'État dilapide l'argent qu'il prend avec nos impôts, et on a l'impression que ces malheureux que nous sommes sont obligés de remplir les caisses, vous parlez d'un État titanique, je crois, d'un État titanique, donc un peu comme les Danaïdes essayaient de remplir leurs tonneaux percés, donc, et à la fin, donc, on se demande si c'est plus dur pour l'État gaspilleur que vous dénoncez de subir cette espèce de déballage public, ou si c'est plus dur pour les victimes comme nous qui lisent, parce que nous sommes absolument impuissants, qui confirment parfois, mais on en découvre aussi beaucoup, l'usage, mais absolument délirant, incompétent, inconscient, choisissez le mot qui vous plaît, qui est fait avec leur argent. Alors, pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi ce livre est,
De méchanceté aucune. Pourquoi ce livre? Ben, écoutez, c'est dans la droite ligne des travaux de contribuables associés. Hein, donc, contribuables associés défend depuis 30 ans les contribuables. Et le but du jeu dans cet ouvrage, comme souvent ce qu'on fait dans notre association, c'est une dimension didactique. J'ai voulu expliquer vraiment de façon la plus simple possible, même si la matière est extrêmement complexe, où passe l'argent des Français. C'est tout simple, où va notre impôt? Et qu'est-ce qu'en fait l'État? Qu'est-ce qu'en fait la Sécu? Qu'est-ce qu'en font les collectivités locales?
Alors, c'est combien de temps de travail, ça? Et quelles sources utilisez-vous?
Le temps de travail, la rédaction a été très courte, un peu plus de 3 mois, parce que le but du jeu était de rendre le travail et de publier le bouquin au moment des débats budgétaires, donc au mois de novembre. Donc, il a fallu faire vite. Dieu merci, nos sources, et que je travaille sur ces sujets depuis un certain temps, et que donc, il y a certaines données que je connais, je pense. Et par ailleurs, les sources, les sources sont des sources ouvertes, hein, tout simplement. C'est des sources, il n'y a rien d'inventé. Mes données, les données principales que je cite, sont des rapports de la Cour des comptes, des rapports parlementaires, des rapports de l'Inspection générale des finances et autres.
D'accord. Alors, à votre avis, donc, comment on en est arrivé là? Parce que si je me souviens bien, la dernière fois qu'on a eu un budget à l'équilibre, c'était...
Il y a 50 ans. Oui. 74.
Oui. Un an. Non?
Non,
Jean-Yves Le Gallou conteste.
Le dernier budget présenté en équilibre,
74.
C'est 1980. Présenté en équilibre par Giscard, avec Barre comme Premier ministre, et avec, pardon de le dire, Papon comme ministre du budget. Et donc le budget de 81 a été présenté en équilibre, il a été voté en équilibre, et placé ensuite en déséquilibre par Mitterrand et Mauroy. Mais de 74... À 81, il y a quand même eu un effort de redressement, en tout cas de 76
sous barre, oui,
à 80 sous barre. Voilà. C'est pardon de ce.
Oui, mais c'est vrai, c'est vrai.
C'est un peu.
C'est technique parce que.
C'est un peu technique, oui. Voilà.
Alors, on retient cette fameuse date de 74 après 73.
Ça fait longtemps quand même, quoi.
Ça fait longtemps.
Alors, c'est vrai en termes d'exécution.
Oui, oui.
C'est vrai en termes d'exécution. Ouais. En termes de vote, c'est un peu moins exact. Voilà.
Et vous avez bien raison d'ailleurs de mettre en avant le rôle du Parlement en la matière. Et pour revenir sur Raymond Barre, comme vous le disiez, monsieur Le Gallou, effectivement, Raymond Barre, dès 76, parlait d'une France qui vivait au-dessus de ses moyens. Donc déjà, il y a près de 50 ans, il y a à l'époque, la dette publique par rapport au PIB, elle était entre 15 et 20%. Hein. Aujourd'hui, on en est à 115. Donc c'est dire que ça fait le mal est profond et n'est pas d'hier et ne remonte pas à Emmanuel Macron.
Ouais, hélas, oui, hélas, oui.
Mais Emmanuel Macron avait promis que tout allait s'arranger avec lui. Il y a des interviews de 2017 avec Bourdin où il explique qu'il va économiser 60 milliards par an. Bourdin dit, vrai, par an, non, oui, par an.
On est sûr, monsieur le président, monsieur le candidat à l'époque. Non. Oui, tout à fait, comme Emmanuel Macron avait promis de réduire de façon assez conséquente les effectifs de la fonction publique, et c'est tout le contraire qui s'est passé.
Alors comment ça s'est fait, ça? Pourquoi la promesse n'a pas été tenue et même inversée? C'est le Covid?
C'est le Covid, le Covid à bon dos. Quand on parle du Covid, effectivement, il y a des dépenses publiques extrêmement importantes qui ont été sorties, entre guillemets. Mais quand on prend ces dites dépenses, donc on va dire à peu près 1 000 milliards d'euros, il y a de la dette là-dedans. Et les dépenses liées au Covid, en fait, n'ont fait que financer, pour l'essentiel, moi, j'exagère à peine, les dépenses du quotidien, et pas en fait les dépenses liées justement à ce plan Covid. C'est ce que la distinction que fait la Cour des comptes en parlant de dépenses ordinaires et extraordinaires. Donc en fait, un des mal français, effectivement, c'est qu'on est beaucoup dans... Par exemple, la dette peut être une bonne chose, on peut s'endetter pour investir, mais le grand mal français, c'est qu'on s'endette pour les dépenses de fonctionnement seulement. Pour les dépenses de fonctionnement et pas pour l'avenir.
Alors quand vous dites que les dépenses liées à la crise du coronavirus n'ont pas été utilisées pour cela, c'est-à-dire qu'elles ont été utilisées pour quoi concrètement?
Pour faire tourner la machine.
C'est tout.
Voilà, oui, pour faire tourner la machine. On a, comme vous le disiez, Emmanuel Macron, en 2017, candidat, promettait une baisse de 120 000 effectifs dans la fonction publique. Entre 2017 et 2022, 180 000 postes ont été créés, par exemple. Donc la machine, l'État obèse, comme le présentent certains, n'a cessé d'enfler, oui.
D'accord. Alors j'ai lu une statistique en préparant cette émission. En 2023, donc, la France était classée au premier rang du classement des pays de l'OCDE, donc c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, qui comporte, je crois, une quarantaine de pays.
38, oui.
Et qui est arrivée au premier rang du classement de ces pays en termes de ratio impôt-PIB, avec un résultat de 43,8% pour deux années consécutives. Et en 2025, donc c'était le pays où on payait le plus d'impôts au monde, j'imagine. Enfin, je sais pas si on pourra en parler après.
Les pays de l'OCDE, pays riches, entre guillemets, hein, le club des pays riches. Ouais.
Et en 2025, elle a encore amélioré son score avec un taux d'imposition donc de 45,3%. Mais hélas, elle n'a pas été récompensée puisqu'elle a perdu son classement au profit du Danemark.
Ouais, on n'est plus Miss Monde, effectivement. Ouais,
qui est encore plus, encore plus rigide.
Mais une grande différence, c'est-à-dire que les Danois sont assez satisfaits de leur modèle et que, en gros, si les Danois payent beaucoup d'impôts, on voit que dans la rue, au quotidien, le pays tourne bien. Ce qui est l'inverse de la France. Il y a beaucoup, de plus en plus d'enquêtes d'opinion, les contribuables associés à l'origine d'un certain nombre d'enquêtes d'opinion. Il y en a encore eu la semaine dernière. On voit qu'il y a un très très bon séché, ELAB, l'Institut de sondage ELAB, qui a sorti un rapport sur la vision qu'ont les Français de l'argent public. Et 87% des Français estiment que l'argent public est mal utilisé. Autre sondage encore de la semaine dernière, de samedi, du Figaro. 81% des Français estiment qu'ils payent trop d'impôts eu égard à la qualité des services publics. Donc on voit, en fait, il y a ce phénomène de consentement à l'impôt qui part à volo, parce que pendant longtemps, les Français nous disaient, même si déjà il y avait une forme de spoliation, étaient assez d'accord telles que les choses se passaient quelque part, parce que les services publics, l'hôpital, les transports, l'école tenaient la route. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe. Et donc, les Français se disent, mince, pourquoi payer autant d'impôts eu égard à ce que je vis au quotidien?
Oui, parce qu'en fait, le vrai problème est là. C'est peut-être, avant de donner la parole à Richard, mais que précisément, on a ce sentiment qu'on est des vaches à lait et que nous ne sommes absolument pas récompensés. C'est-à-dire, vous faites un état des lieux, mais enfin, qui est une épouvante, quoi, c'est-à-dire de tous les domaines.
Je voulais juste dire qu'il y a effectivement un sentiment, il y a des enquêtes d'opinion, mais il y a surtout une réalité. C'est-à-dire le fait que les Français aient l'impression qu'ils sont des vaches à lait, le fait qu'ils aient l'impression que l'argent public soit gâché, très bien, mais surtout, voilà, vous établissez le fait que très réellement, oui, il y a une dégradation réelle des services publics. C'est-à-dire qu'on peut mesurer le fait que c'est mal utilisé.
Ce n'est pas qu'un sentiment de gabegie. La gabegie est manifeste. Ouais. Oui, tout à fait. C'est le but, encore une fois, oui, de ce livre de modestement de l'explicité. Alors,
est-ce qu'on pourrait prendre deux, trois exemples un peu concrets, justement,
des
parmi
concrets,
les
atrocités
que vous dénoncez?
Entre guillemets, je voulais être concret parce que j'ai émaillé chaque chapitre de cet ouvrage de, d'infographie. Donc je pense que les images aussi ça parle et ça permet de situer certaines thématiques budgétaires. Il y a par exemple un chiffre, on entend beaucoup parler des 5% du déficit budgétaire de l'État. Et donc on fait des comparaisons internationales, on utilise pour ça le PIB. Mais si on regarde juste une petite chose, j'ai pris les chiffres de 2024 parce qu'au moment de la rédaction du livre, c'est les seuls dont on était absolument sûr. Si vous prenez les recettes de l'État donc, qui étaient en 2024 de 289,5 milliards d'euros, ses dépenses nettes 443,4, donc vous avez obtenu un déficit de 153,9. Et ce déficit, si, plutôt que de faire comme on le fait habituellement, donc de comparer par rapport à la création de richesse dans une année, ce qu'on appelle le PIB, vous faites un rapport déficit-dépense, on est quasiment à 35%, c'est-à-dire qu'en gros, un tiers des dépenses de l'État sont financées à crédit. Et cela depuis quand même un certain nombre d'années. Ça, c'est un chiffre qui nous alerte. Oui. Comme autre chiffre qui je trouve extrêmement inquiétant, on parlait un petit peu de la dette tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le service de la dette ou la charge de la dette. On voit qu'elle ne cesse, donc la dette grossit, mais les simples intérêts, parce qu'elle stocke, mais rien que les intérêts nous coûtent très cher. Et aujourd'hui, il y a différents chiffres, sous le gouvernement Bayrou, on parlait de 67 milliards de charges de la dette pour 2025, France Trésor est un peu en dessous, mais en gros, aujourd'hui, pour la charge de la dette,
les intérêts de la dette.
Voilà, et les simples intérêts, on dépense plus pour rembourser ces simples intérêts qu'on dépense, par exemple, pour la défense en France. Et à la fin de la décennie, dès 2029, et encore là, encore une fois, j'invente pas, ce sont des projections gouvernementales, ces intérêts de la dette vont nous coûter 100 milliards par an. Et là, donc, c'est défense plus éducation nationale quasiment cumulée. Et donc, on est dans des enjeux quand même assez considérables. C'est encore une fois, ces intérêts de la dette, cette dette, c'est autant d'argent qu'on va pas pouvoir mettre pour investir ailleurs.
Alors, vous dites qu'on est passé d'un état stratège, donc j'imagine précisément à l'époque où les budgets étaient tenus, donc en gros De Gaulle, Pompidou, peut-être encore un peu Giscard, à un état nounou. Comment s'est opérée cette dérive, en fait ? Qui a décidé
C'est la naissance de l'État-providence après la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas un schéma uniquement français, hein, c'est un schéma européen, mais si ce n'est que les Européens ont commencé à faire machine arrière depuis une dizaine, quinzaine d'années, notamment en Hollande, je me rappelle dans un discours du roi de Hollande qui avait fait un discours assez excellent là-dessus. Même Jean-Paul II a eu dans les années 80 aussi, mais après la chute du mur, a mis en avant les dangers de l'État-providence qui pouvaient se transformer en État nounou, voire en même temps en État spoliateur et ennemi de la personne humaine. Donc c'est une grande constance. Je pense qu'on en a tous bénéficié, l'État-providence, mais fort. On est obligé de voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes. On en parle beaucoup, le phénomène des retraites, de la santé. Aujourd'hui, si vous prenez l'État, a fait quelque chose de très très bien il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était sous Gabriel Attal, il a créé un site internet qui s'appelle À quoi servent mes impôts. Donc ils ont fait ils ont créé un visuel, moi que j'ai imprimé comme ça.
Est-ce que vous pouvez le commenter pour les auditeurs qui n'ont pas l'image
Donc sur 1000 euros d'impôts, l'État vous explique que 561, donc plus de la moitié. De nos impôts vont à la protection sociale, voilà. Donc on en est en plein dans l'État-providence et donc c'est les retraites, c'est la santé, c'est la famille.
Mais c'est l'immigration aussi.
Oui, alors qui dans différents.
Ça, ce sont des dépenses normales qu'on assure la santé,
qui ont été chiffrées par certains experts. Entre 30 et 50 milliards d'euros de coûts par an. Mais si vous prenez donc la protection sociale, c'est plus la moitié des dépenses publiques. L'éducation, sur 1 000 euros, c'est 88 euros qu'on va dépenser. Et si vous prenez le régalien strict, en mettant même de côté aujourd'hui les finances, on est à 66 euros sur 1 000 euros de dépenses publiques. 66 euros sur 1 000. C'est dire que voilà,
Tellement régalien. Quoi.
C'est plus tellement régalien.
Le régalien est à l'os et le reste est dans la.
Et dans l'obésité.
Voilà, ce qui est fort dommageable, parce que l'État, justement, est là pour ça, est là pour servir et protéger les Français, il fait tout le contraire.
Alors, Xavier Van Leerde, et ensuite Arthur de Vatrigan.
Oui, bonsoir, je m'interroge un petit peu sur votre charge contre l'État-providence. Moi, j'ai plutôt le sentiment que l'État-providence n'est pas en lui-même un problème, à condition toutefois que l'État-providence soit assis et lié à un État producteur. Enfin, pour tout dire, j'ai l'impression que la bascule se fait plutôt lorsque cet État-providence n'est plus un État producteur, et c'est un État qui fait le choix de la consommation plutôt que celui de la production, et que cela, ça se produit plutôt au moment où on a l'idée absolument géniale de se lancer dans la mondialisation, de délocaliser, de choisir un modèle économique où on n'a plus besoin d'usines, par exemple. un modèle aussi où, faisant le choix des consommateurs contre les producteurs, on se lance dans un modèle économique qui est celui que Jérôme Fourquet a appelé stato-consumériste, c'est-à-dire où l'État n'est plus seulement là pour protéger contre les accidents de la vie, mais fait de la consommation le moteur même de la croissance, et dès lors qu'il n'y a plus de production, en réalité, fait de la dette sans fin le moteur de ce qui nous reste de croissance. Qu'en pensez-vous ?
Oh, c'est très juste, hein. La remarque est très juste, effectivement. Monsieur Fourquet a employé ce terme. Le journaliste du Figaro, le chroniqueur pour le Figaro, Monsieur Vermeulen, je crois, Pierre, on est à l'origine, je crois, de cette formule excellente. Oui, c'est très bien dit, ça a été dit par certains hommes politiques déjà très tôt dans les années 80, hein, ce phénomène où, entre guillemets, on fait rentrer les ventres et on fait partir les cerveaux. Et oui, c'est ce qu'on vit. Malheureusement, après, la France ne devrait pas être un isolat. On voit que notre politique industrielle a été menée pique-pendre. Fort de constater encore une fois que d'autres pays européens ont su très bien s'en tirer, ou beaucoup mieux que nous en tout cas, en la matière, c'est-à-dire en ne sabrant pas leur industrie. Puis on voit certains pays autour de nous, comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie, en train de se relever avec, par exemple au Portugal, des gouvernements socialistes qui ont aligné des budgets bénéficiaires.
Et comment ont-ils fait alors ?
Écoutez, ils ont été raisonnables. En fait, ce qui s'est passé en Espagne, en Italie ou dans d'autres pays... Il y a une trentaine d'années, comme en Nouvelle-Zélande ou au Canada, en régional, quand les choses ont bougé, c'est que ces pays étaient quelque part dos au mur. Ce qui n'était pas encore arrivé, mais ce qui arrivera
pourtant,
peut-être.
Pourtant, on a l'impression.
On continue de creuser, mais on n'a pas encore trouvé. On n'est pas allé jusqu'au fond, je pense, malheureusement. En tout cas, c'est ce que disent certains analystes. Qu'il faudra vraiment que la France soit dos au mur pour que ça bouge réellement.
Voilà. Arthur de Vatrigan.
Mais justement, comme vous l'avez dit, on fait fuir les cerveaux et que beaucoup de cerveaux ont déserté les crânes de beaucoup de nos concitoyens. Et comme Xavier l'a répété, on est dans un État qui a choisi la consommation, quitte à solvabiliser des gens qui ne l'étaient pas pour qu'ils consomment. Si vous regardez aujourd'hui, à l'exception de l'immigration, qui est très important, mais qui financièrement, aujourd'hui, n'est pas une masse énorme, personne ne veut faire des économies. Tout le monde dit qu'il veut faire des économies, mais dès qu'on leur pose la question, ils disent non, la retraite, ils vont dans la rue, la santé, ils veulent pas, l'école, ils veulent pas, la police, ils veulent pas, quand on parle des transports et de la poste, ça gueule, mais dès que la poste n'est plus là, ça râle, dès que le TGV marche pas, ça râle. En fait, on a l'impression qu'il y a, alors peut-être c'est dû, je vais encore prendre les boomers dans la tronche, mais parce qu'on est dans un état, dans un pays qui est vieillissant, et donc la majorité des gens qui votent correspondent à une certaine tranche d'âge, ce qui fait qu'on n'est pas un pays qui regarde vers l'avenir, et qu'on regarde sur une distance courte de 1, 2, 3, 10 ans maximum, et surtout une distance géographique qui correspond à son bout de jardin. J'ai l'impression que ça ne pourra jamais changer.
Ça pourrait changer. Là où ça a changé, justement, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont mené des grandes réformes, par exemple en Nouvelle-Zélande, c'est qu'il n'y a pas eu de mesurette. C'est-à-dire, vous faites une mesurette, vous êtes en face d'une catégorie socio-professionnelle ou une catégorie d'âge. En fait, il faut faire une réforme d'ensemble. Il faut avoir un gros paquet qu'on fait passer très vite. Mais ce gros paquet, ça veut dire que la réforme, ou les réformes, il faut la préparer pendant longtemps, avant d'être aux manettes. Il faut être aussi très didactique, l'expliquer aux gens, expliquer que comme tout le monde va être impacté, qu'il n'y aura pas de privilégiés dans l'histoire, c'est que tout le monde va devoir y passer. Donc, mais surtout pas de mesurette. Et je pense qu'il faut aussi, quelque part, mettre les électeurs, mettre les gens dans leur poche. C'est-à-dire, encore une fois, dans ce livre, modestement, je parle de certains schémas éventuels de réforme de la fonction publique. Mais mon bouquin ne se veut pas du tout à rebours ou contre les agents publics, justement. Je pense que... Ce qui a été mal fait ces dernières années, qu'on a voulu réduire par exemple, ou dégonfler la fonction publique, c'est qu'on l'a fait à rebousse-poil, c'est-à-dire on l'a fait contre les agents. Beaucoup d'agents publics sont pour une réforme, pour plus de mérite, etc. si je pense, cher monsieur. Mais pour la France, c'est pareil. Je pense qu'il faut réussir. Alors, c'est un peu facile à dire, à se mettre les gens dans la poche, mais faire preuve de pédagogie, de didactisme. Mais ça demande effectivement, comme vous le disiez, il ne faut pas avoir une vue à court terme. Il faut avoir une vue à long terme. Il faut penser loin et long. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, effectivement.
Jean-Yves Le Gallou. Et après, peut-être Alexis Poulain. Je ne sais pas si vous avez un...
Je crois que vous avez cité le chiffre de 150 milliards, qui est le seul chiffre pertinent, puisque c'est le déficit. Et donc, c'est 150 milliards qu'il faut trouver si on veut arrêter de s'endetter. Je pense que sur les 150 milliards, il faut dresser les pistes. Et je ne crois pas que les pistes soient uniquement sur le côté État-providence et redistribution. Il y a au moins trois pistes qui me paraissent relativement importantes et qui peuvent être très fructueuses. Il y a la piste immigration, on en a parlé. Alors, ça permet peut-être pas de trouver les 150 milliards, mais ça permet de commencer à en trouver. Il y a la piste de la transition énergétique,
oui.
Où il y a 25 milliards
j'y consacre tout un chapitre,
en pure perte. Et il y a la piste des collectivités territoriales, oui. Où on a dit Mitterrand, soi-disant, a fait la décentralisation, sauf que la décentralisation, ça a conduit à multiplier les structures qui se contrôlent les unes les autres et qui ne sont pas libres parce qu'elles sont elles-mêmes victimes de tout un tas de normes. Et quand on regarde à Paris, par exemple, qui est une ville en déficit, qui est une ville qui coûte cher, on a l'impression qu'une partie des travaux qui sont faits, non seulement ne sont pas utiles, non seulement sont inutiles, mais en plus sont nuisibles. Donc il y a de la marge. Je crois qu'il faut...
C'est exact ce que je pense que j'ai tendance à dire, c'est qu'on le retrouve justement dans ce sondage Elab, c'est que, ce qui est quelque part rassurant, c'est qu'il y a des marges de manœuvre partout. Quand on voit, et je le liste voilà, en 14 chapitres, où on peut agir partout. Pour revenir effectivement sur les collectivités territoriales, depuis les lois de fer qui ont institué la décentralisation au début des années 80, 81, 82, les 10 effectifs de les collectivités locales ont enflé de 800 000. Donc, ce qui est quand même assez gigantesque, sachant que les transferts de l'État ne correspondaient qu'à 140 000 postes. Et il y a un rapport très intéressant qui est sorti en 2024, qui a été piloté par l'actuel maire de Charleville-Mézières dans les Ardennes, Boris Ravignon, justement, qui a chiffré ce dit millefeuille territorial. Certains même aujourd'hui ne parlent plus de millefeuille territoriale, mais de plat de spaghetti, tellement justement il y a le millefeuille,
et
après il y a tous les services horizontaux, donc ce qui fait que Boris Ravignon lui dit que ça coûte 7,5 milliards par an, voilà. Mais les interactions entre l'État et les collectivités locales, parce qu'il y a quand même 20 000 fonctionnaires qui travaillent aussi sur les collectivités locales, et donc c'est un bazar. Moi je dis souvent, regardez un petit peu dans nos villes, les grands panneaux de travaux, vous voyez,
oui.
Et là on voit le nombre d'intervenants. Et ça dit beaucoup parce qu'en fait, et on l'a vu récemment, il y a eu un scandale aussi au ministère de l'Intérieur avec un fameux logiciel qui a coûté depuis 250 millions d'euros, qui est inopérant après avoir été lancé il y a 10 ans. Le truc est tellement inopérant que si vous voulez télécharger un PDF avec ce logiciel-là, il faut cliquer 17 fois. Véridique. Et pourquoi ? Ben, la Cour des comptes, c'est comme pour le millefeuille territorial, explique qu'il y avait trop de services qui étaient chargés de ce logiciel, trop de gens, et donc aucune lisibilité. Tout le monde est responsable, donc personne n'est responsable, ouais. Et du coup, voilà, ça, c'est l'échec. Et tout est comme ça en France, malheureusement, qu'il y a une bureaucratie qui nous tue.
Mais surtout une bureaucratie qui ne dit pas la vérité, parce que quand l'échec du logiciel de paix des armées Louvois, l'échec de ce logiciel-là, c'est une fois que la catastrophe est entièrement consommée, une fois qu'il est absolument avéré qu'on ne peut plus revenir en arrière, on nous dit que ça a coûté 250 millions d'euros, au bout de 10 ans...
Grâce à la Cour des comptes, qui a sorti un rapport de 500 pages qui...
Il y a 6 ans, il y a 4 ans, c'est bon, on savait déjà que c'était faux. Et pourtant, là, on continue.
On a enterré, l'administration, la haute administration, le ministère de l'Intérieur, pour le coup, a enterré la chose. Oui.
Alexis Poulin.
Justement, ces deux exemples, Louvois et le logiciel de la police, posent aussi la question ô combien scandaleuse des agences, enfin des boîtes de consulting. On se rappelle, il y a un scandale en cours avec McKinsey qui n'a pas payé d'impôts, avec une collusion lors de la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron. Et toujours, le service public s'est dit, faisons appel au privé, à ces agences de conseil formidables qui vont nous aider à faire des économies. Résultat, on paye des milliards à ces agences qui, au final, ne font aucune économie. Comment c'est possible? Et est-ce qu'on va voir peut-être, dans le cadre de ces enquêtes, arriver sur peut-être un vrai conflit d'intérêts et un vrai sujet sur l'État qui utilise, pour se dédouaner, ces agences de consulting pour continuer une dépense folle?
Ah, c'est fort possible. Et sur les 1,5 milliard qui ont été chiffrés, c'est dans les derniers rapports. Une chose s'explique peut-être par rapport à ce que je disais juste avant, c'est que sur les 1,5 milliard d'euros qu'ont coûté ces cabinets de conseil il y a quelques années, il y a 1 milliard qui est consacré au service informatique. Donc est-ce que ça veut dire que les cabinets de conseil ont mis la zizanie dans les services de l'État et que ça a mis le bazar et que ça nous a fait créer des logiciels qui marchaient pas, ou est-ce que l'État, justement, étant tellement incompétent en informatique, qu'il a recours à ce type de cabinet? C'est la question que je pose, j'ai pas encore eu la réponse.
Alors, du point d'expérience administrative que je peux avoir, j'ai toujours vu l'État incompétent en matière informatique. Alors, je ne sais pas pourquoi.
Je peux vous donner une anecdote là-dessus. Il y a quelques années, on est, bon, c'est pas si vieux, c'est en 2023, on est à l'Assemblée nationale avec contribuables associés et, pour organiser un débat, comme on fait souvent devant les députés, avec Michel Auboin, l'ancien préfet. Et là, Michel Auboin, qui était à l'intérieur, nous disait, peut-être un de vos collègues déjà à l'intérieur, nous expliquait aux députés qu'ils étaient dans le même bâtiment, la moitié du bâtiment était à l'intérieur, les agents de l'intérieur y étaient localisés, et l'autre moitié des agents du ministère de l'Agriculture. Et Michel Auboin racontait que quand il allait déjeuner avec ses collègues, avec les collègues du ministère de l'Agriculture, ils disaient, moi, ces gens-là au ministère de l'Agriculture, ils savaient à l'unité près combien il y avait de moutons et de lapins en France. Moi, qui étais directeur de la partie du département des étrangers au ministère de l'Intérieur, j'étais incapable de savoir combien il y avait d'étrangers en France. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas les outils disponibles, et notamment les outils informatiques. Et il disait, donc en 2023, il nous disait que je ne suis pas certain que les choses soient mieux aujourd'hui, soient améliorées, et on le voit justement avec ce fameux logiciel de la police. Et pour terminer par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, l'administration a enterré le problème, alors que depuis des années, les agents de terrain de la police expliquaient que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas.
Alors, il y a peut-être.
Jean-Yves, ensuite, on a une multitude de messages qu'on va essayer de lire.
De l'administration, il y a la complexité infinie, et pour les collectivités locales, la complexité infinie des normes et des marchés publics.
Oui.
Ce qui fait que passer un marché, ça prend des années. Par exemple, les armées, en ce moment, se posent le problème d'avoir des moyens d'arrêter des drones. On a vu, c'est dans l'actualité. Eh bien, avec le système de marché public normal, il faudra probablement 3 ans. Et si les agents publics sortent des normes, des règles, des marchés publics, ils vont se trouver devant les tribunaux judiciaires.
Sauf Radio France.
Donc, c'est pas si simple.
Pourquoi ? Sauf Radio France. Ça marche, le marché public, à Radio France, sur les boîtes de prod. Non. Et ça, on le verra dans les prochaines commissions.
On le verra tout à
l'heure, tous les mercredis. Non, mais en fait, c'est bien la preuve que quand ils veulent, ils le font pas. Quand ils veulent s'affranchir des règles, comme pour la reconstruction de Notre-Dame, ils le font pas, ça marche aussi. En fait, ça les arrange bien. Quand vous dites dans le millefeuille, on parle souvent du millefeuille, il y a aussi le millefeuille des gens. Là, à Radio Courtoisie, on a une seule personne, Claudia, qui fait toute la technique. Vous allez sur une autre radio qui a un peu plus d'oseille, c'est 4 personnes. Vous allez à Radio France, c'est 25. Pour faire un seul
boulot. Ne donnez pas d'idée à Claudia.
Parce que, non, mais il y en a un
qui fait le boulot.
Puis il y en a un qui surveille au cas où il doit se laisser moucher, doit être là au cas où. Et puis au cas où lui va mourir, il faut qu'il y en ait un autre qui soit derrière, et ainsi de suite. Oui. En fait, c'est le millefeuille, c'est aussi l'empilement des gens.
À Radio France, quelqu'un m'avait raconté.
Les réunions opérationnelles, dans une structure à peu près normale, c'est entre 3 et 6-8 personnes. Une réunion administrative, c'est généralement 25 ou 30 personnes.
C'est
gens quand même qui perdent leur temps, objectivement, et qui se paralysent plutôt les uns les autres, quoi.
Voilà. Alors,
ça, c'est un problème de fonctionnement. Hein. C'est pas forcément si facile que ça à réformer, d'ailleurs. Mais ça, c'est un problème.
C'est là justement qu'on voit toute l'ambivalence, toute la dichotomie, quelque part, ontologique presque, de l'État. Il est à la fois castrateur pour beaucoup de Français au quotidien, mais aussi impuissant. Et c'est, voilà, on a là une forme de coxigru, de folie. Castrateur là où il ne faut pas, et impuissant là où il devrait être.
C'est impuissant qu'il est castrateur. En fait, on le voit, c'est fascinant. Dès qu'il y a quelque chose qui marche, ils veulent casser. Le plus flagrant, c'est avec l'école. L'école publique, ils l'ont flinguée. L'école privée marche, qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent casser l'école publique, le privé. Puis maintenant qu'ils ont gangréné l'école privée, ils veulent casser leur contrat. Mais moi, j'avais une question sur un sujet qui est très important, parce qu'on a eu le Covid, parce qu'on arrive en décembre, janvier, donc on va avoir les grippes. Et
on va tousser, on va tousser.
Exactement, c'est l'hôpital.
Ça a déjà commencé, il y a une nouveau Covid là qui arrive.
L'hôpital, quelle est la situation de l'hôpital aujourd'hui ? C'est quand même un sujet très important, parce que les progrès de la science font qu'on vieillit plus, qu'on soigne des maladies plus complexes, donc naturellement ça coûte cher, et comme on vieillit plus, on a besoin de plus de soins. Quelle est la situation aujourd'hui de l'hôpital et la situation que vous tracez sur ce qui va se passer,
déjà on a du mal à recruter. On a du mal à recruter des infirmières, notamment depuis le Covid, parce qu'il y a une rupture de confiance entre l'État employeur et ses personnels. Aujourd'hui, une infirmière est très très mal payée en France. Encore une fois, je fais le distinguo entre la dépense utile et la dépense inutile. Là, pour le coup,
vous oubliez la dépense nuisible.
Et la dépense nuisible.
Travailler les dépenses nuisibles.
Et c'est même l'objectif premier de contribuables associés, vous le savez. Et donc, ces infirmières, beaucoup, des 15 000, il y en a un certain nombre, elles sont parties où ? Elles sont parties en Suisse, où elles sont payées 3 fois mieux. Et c'est pareil, nos agents de prison on voit les problèmes qu'il y a en prison, justement, s'il y a beaucoup de choses qui y rentrent, c'est parce que souvent les gars, ils ont besoin de compenser quelque part, la police, etc. Évidemment, les profs. Et donc, l'hôpital va mal. Beaucoup de gens sont sous-payés. Un gros problème aussi, c'est la suradministration dans l'hôpital. Il y a le même phénomène bureaucratique que celui qu'on rencontre dans l'éducation nationale, à savoir que un peu plus d'un tiers, quasiment 35%, dit l'OCDE, des personnels de l'hôpital sont des personnels non soignants, donc ils ne sont pas auprès du patient. Alors, il y a des gens qui sont extrêmement utiles dans l'administration, et les fonctions support, il va les cantiniers, etc., les brancardiers. Mais il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans son analyse, c'est Michael Perromor, qui est un grand chef de département, d'un professeur spécialisé en neurologie à l'hôpital Cochin, qui a écrit un bon bouquin là-dessus, qui décrit justement le parcours de l'hôpital, et lui, il explique qu'il y a encore des années 90, la France avait véritablement, à son sens, le meilleur système de santé au monde. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un basculement, c'est que les administratifs ont pris le pouvoir dans l'hôpital au détriment des soignants. Et on voit justement...
Mais c'est vrai aussi dans la police.
C'est vrai dans la police.
Enfin, c'est vrai partout.
C'est vrai au CNRS, où les bureaucrates sont parfois plus nombreux que les chercheurs.
Oui, au ministère de l'Agriculture, il y a une blague, bon, c'est pas tout à fait vrai encore, mais bientôt on aura plus de ministres, plus de fonctionnaires pendant au ministère de l'Agriculture qu'on aura d'agriculteurs.
Il n'y a pas que l'hôpital, si vous me permettez, il n'y a pas que alors il y a l'administratif, évidemment, je crois même, en fait, dans ce...
Ah, il y a d'autres problèmes,
Dans le personnel administratif, je crois qu'il y a même 20% du personnel administratif sont des soignants, donc des types à la base qui ont eu des diplômes pour soigner et qui devaient être embauchés pour soigner,
qui sont devenus surveillants, contrôleurs,
mais
etc.
Dans l'évolution, vous datez des années 90, c'est vrai, mais il y a toute la logique, en fait, toute la réforme finalement Juppé. Mais
oui, les réformes plus récentes, il y a toute la tarification à l'acte.
Bah, mais c'est une logique marchande, en fait. C'est ça qui est assez effrayant. C'est quand même une logique marchande.
C'est une logique comptable, mais je pense qu'il faut, qu'on est dans l'argent public, il faut penser le temps long et réfléchir à la réforme avant de la lancer. Est-ce qu'on sait pas faire, parce que justement, sous pression électoraliste ou autre, ou parce qu'on a toujours envie de nouveautés, peut-être ça fait bien, en termes de communication politique, de lancer les trucs avant de voir si ça peut vraiment marcher. Donc on prend pas ce temps-là en France, alors que d'autres pays, comme la Suisse, par exemple, bon, une organisation et autres aussi, peut le faire. Donc oui, la tarification à l'acte, s'est dit au départ, ben ça va, c'est super, ça va moins coûter. Parce qu'avant, les hôpitaux avaient leur enveloppe et puis, entre guillemets, se débrouillaient avec. Mais ça a été tout le contraire, quelque part. Justement, cette tarification à l'acte a fait que ça a été la course aux actes, course au volume, course à la dépense. Et autre gros problème avec ce système, c'est que ça a fait justement enfler la bureaucratie, considérablement la bureaucratie. Et donc, on en paye aujourd'hui toutes les conséquences à l'hôpital.
Xavier Van Leerde, et ensuite Jean-Yves.
Oui, mais en fait, ma question portait là-dessus, c'est-à-dire sur les vices absolument épouvantables de ce qu'on appelait le New Public Management, qui était...
Mon Dieu, le cochon
je suis désolé, je le dis une bonne fois pour toutes, les choses dégoûtantes qui portent des noms anglo-saxons, je continue à les appeler d'un nom anglo-saxon pour qu'on voit que c'est une espèce de corps infâme greffé sur le corps national.
Jean-Yves,
donc, le New Public Management dont l'idée initiale était... donc d'introduire des idées de rentabilité inspirées du privé en réalité en les greffant sur l'administration publique n'a abouti mais on vient d'en parler qu'à une explosion des normes du reporting, encore une chose dégoûtante qui porte un nom anglo-saxon et donc à créer une sorte de thrombose administrative absolument épouvantable. Et tout à l'heure Alexis parlait des sociétés de conseil. Dans l'imaginaire collectif, les sociétés de conseil, McKinsey et autres, ce sont des vecteurs de privatisation et autres. Mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que dans un monde stato-consumériste, même les institutions privées auxquelles on fait appel ne savent faire qu'une chose, générer un surcroît de bureaucratie. Et donc on est vraiment dans un système très paradoxal qui, à mon avis, on revient à cette idée-là. Dès lors que à cette idée que la consommation tire tout, dès lors que la seule occasion de croissance c'est la consommation, on ne sait faire qu'une seule chose, c'est flécher l'endroit vers lequel on va diriger l'argent qu'on a pris soit dans la poche des contribuables, soit qu'on a généré via la dette. Donc je vois pas trop, et j'en viens donc à ma question, comment sort-on d'un système tel que celui-là, où finalement le débat politique d'ailleurs s'enferme dans un débat sur comment on flèche l'argent issu soit de l'impôt, soit de la dette, plutôt que des moyens d'en sortir?
Ça sera une des grandes questions de demain d'ailleurs.
De demain, déjà des municipales qui arrivent très vite, et puis de la présidentielle. Comment on flèche, effectivement. Bah, déjà, votre question est intéressante parce que vous posez la question et je crois que peut-être que de plus en plus de Français vont se la poser et qu'on va arriver dans les fondamentaux de l'action publique et politique. Et on va revenir peut-être à réfléchir véritablement à quoi sert l'État et quelle est la valeur du citoyen et comment chacun au quotidien on peut agir pour notre pays. Donc bah, c'est un vaste débat, mais je crois que l'air de rien, des petites choses bougent. Alors c'est les signaux, ce sont des infrasignaux. Évidemment que notre pays est pas bien, mais il y a quelques petits signaux qui, moi, je suis peut-être trop optimiste, me laissent à penser qu'en tout cas certains veulent, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et femmes de bonne volonté dans ce pays, veulent que les choses avancent dans le bon sens. Après, Arthur de Vintrigan en parlait tout à l'heure. Il y a, sans rentrer dans les grandes réformes, j'en liste quelques-unes dans le livre, mais Le cas Notre-Dame est quand même très intéressant. On a quand même vu ce monument insigne détruit et voir le soir même de sa destruction, il n'y a qu'une personne qui y croyait fondamentalement, je pense, à la restauration ou le relèvement de Notre-Dame, c'est Emmanuel Macron quand il nous dit que dans 5 ans, elle sera debout. Ce qui a été fait. Pourquoi ça a été fait? Parce que justement, il y a une loi spéciale où l'État s'est sorti lui-même de la sphère bureaucratique et administrative habituelle. Il y a eu quelque chose de très important aussi. Et qui est fondamental quand on regarde notamment dans les grands travaux ou même tout autre projet, c'est qu'il y avait une gouvernance unique. Le fameux logiciel de la police, ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas de gouvernance unique. Tout est comme ça. Le fameux millefeuille territorial, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de gouvernance unique. Là, il y en avait une. Il y avait un général qui était compétent, qui était un homme à poigne, dont le bras droit était un ingénieur de l'armement, avec des super artisans qui ont réussi à relever tout ça en se libérant de normes urbanistiques, de normes de voirie, etc., de normes administratives. Et le monument, en 5 ans, et pourtant une grande partie du chantier a eu lieu sous le Covid, avec des histoires de plomb pas possibles, le monument a été relevé en temps et en heure. Ça montre qu'en fait, en France, quand on se libère de toutes sortes de carcans, on a des sacrées possibilités, on a des sacrés talents.
Alors Alexis Poulain, avant de donner longuement la parole aux auditeurs, parce que les messages s'accumulent dangereusement, je vous voyais hocher la tête. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, ou est-ce que vous avez vous-même une question?
Moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est de voir que les responsables politiques sont nombreux à annoncer dans leur programme, leur projet, leur vision, qu'il faut couper dans la dépense publique, réduire le poste de fonctionnaires, et systématiquement, ils ne le font pas. Est-ce qu'il y a un problème politique, c'est-à-dire que l'État est le premier employeur de France, et donc ça ferait trop de chômage de virer des fonctionnaires? Ou est-ce que c'est un État qui est devenu incapable de couper dans les dépenses inutiles parce que, on le sait, hein, l'administration ne fait que croître et même quand vous voulez la contrôler, vous ne faites que créer des nouvelles normes, des nouvelles règles. Donc est-ce que c'est possible à un moment d'arriver à réduire cette dépense publique ou est-ce que c'est un leurre?
Je ne pense pas que ce soit un leurre, effectivement. Les grosses structures ont tendance à vouloir croître encore. Il y a un phénomène d'entropie après. Je pense que c'est possible. Encore une fois, je fais les constats, je donne quelques pistes de réforme. Ce qui nous manque, je pense, et on a tous ce sentiment, une majorité de Français, c'est que il faut des hommes politiques ou des hommes-femmes politiques à la hauteur, qui prennent le problème à bras-le-corps. Tous les constats sont bons en France, hein, les constats et des rapports, il y en a un paquet qui sont excellentissimes. Mon bouquin, je pense aussi, n'est pas de la mauvaise eau, entre guillemets. Et donc, on sait comment faire. Entre guillemets, maintenant, il faut quelqu'un qui puisse appuyer sur le bouton et emmener tout le monde dans un réel projet de réforme.
Vaste programme.
Vaste programme, oui.
Alors, on va lire les messages des auditeurs de Radio Courtoisie, que le sujet semble vraiment passionné. Donc, je vous propose, Jean-Baptiste Léon, de prendre quelques notes au fur et à mesure des messages qu'on lit, et puis vous répondez comme vous pouvez. On ne pourra pas répondre à tout, parce qu'il y a trop de messages.
Étant donné que la France pressurise par les impôts et les taxes, sa population, et que les agents économiques, n'est-il pas normal de faire supporter une fois de plus au peuple un effort économique financier supplémentaire, alors qu'on en a connaissance d'un grand nombre de détournements d'argent public? L'État devrait se réformer d'abord de façon à participer également à l'effort financier. La dette serait remboursée déjà si l'on ne donnait pas des milliards d'euros à l'Ukraine, d'une part, et si d'autre part, on ne permettait pas au monde entier d'être remboursé par notre sécurité sociale. Si les problèmes se cristallisent actuellement, c'est que l'on n'a pas voulu prendre en compte l'avenir, en dehors de la prétendue solution miracle que l'immigration totale devrait être comme la fumeuse transition écolo. C'est en fait les deux mamelles du problème avec la corruption à haut niveau. Au fond, quel est le problème au surendettement sans limite de l'État français, sachant que les intérêts rapporteraient encore plus aux investisseurs?
Alors, M. Montagnier avait écrit un ouvrage, La clé de la crise, en 1985, en faisant un état des lieux de la situation économique de la France, qui depuis n'a cessé de se dégrader. La solution, un prélèvement obligatoire sur tous les flux interbancaires, mesure indolore qui permettrait de supprimer tous les impôts. M. Giscard d'Estaing avait refusé la méthode. L'éducation nationale est aujourd'hui freinée par une bureaucratie lourde et un suivi centré sur les plaintes des parents. Je rêve d'un enseignement plus exigeant et stimulant. Vous avez reçu un auteur qui a montré que 20 millions ou même 25 millions de personnes sont directement ou indirectement dépendantes de la fonction publique ou de la dépense publique, comparant l'État à un système soviétique. Pas étonnant que les impôts soient en permanence de plus en plus confiscatoires. En disant « quoi qu'il en coûte », Macron a oublié de mettre au futur et de dire à qui. S'il avait dit « quoi qu'il vous en coûtera », ça aurait été plus honnête et plus clair. Voilà. Bonsoir messieurs, je rebondis sur ce que disait votre invité. La France n'est pas encore dos au mur pour franchir les pas d'une grande réforme comme le Portugal. À votre avis, dans combien de temps ou à partir de quel taux de ponctionnement cela éclatera-t-il? Par la politique, par les urnes ou par la rue? Voilà.
Et alors moi j'en ai un là qui, qui nous dit, qui me semble en plus très judicieux, l'État a des problèmes en informatique, serait-ce par hasard parce que les bons informaticiens trouvent facilement un poste mieux payé et plus motivant dans le privé, voire à l'étranger, et qu'en conséquence on nomme informaticien des gens qui auraient des compétences en d'autres domaines, et qu'en parallèle on sous-traite à des sociétés qui confieraient la réalisation à des stagiaires, lesquels laissent peu de documentation sur les programmes en cours de réalisation, ce qui explique les retards et le fonctionnement étonnant de ces logiciels. Expérience vécue.
Oui, et je confirme, dans l'histoire des logiciels, il y a eu un logiciel de l'éducation nationale qui s'appelait le logiciel Sirène, qui a existé pendant une dizaine d'années, et en fait, la personne qui, au départ, pendant assez longtemps, a piloté ce logiciel au sein de l'éducation nationale, n'avait aucune compétence en la matière.
On a eu aussi le logiciel des payes des militaires.
On voit, oui, on en parle tout à l'heure, où certains, certains militaires se sont retrouvés avec une paye d'un centime d'euro.
Et ils ne pouvaient pas manifester, donc c'est bien.
Oui, c'était bien ça, au moins, c'était pratique. Bon, mais écoutez, il y a encore quelques messages, on va peut-être les garder pour plus tard.
Oui, mais en fait, il y a déjà aussi des invités, gros lot, là,
voilà.
Déjà.
Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont fait réagir, Jean-Baptiste Léon. Beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre noir « De l'argent public » chez Hugo Doc. Et voilà, alors les auditeurs vont trouver, tous ceux qui nous écrivent, là, peuvent trouver là-dedans des dizaines et des dizaines de cas de gabegie, de gaspillage, et puis encore une fois, quelques pistes pour redresser la barre.
Et une des pistes pour redresser la barre c'est peut-être aussi de faire confiance aux Français. Quelque part, on voit que certains constats sont assez bons parmi les messages que vous recevez. Il faudra peut-être casser un moment aussi cette verticalité de l'État. Jacobin, je pense. Alors certes, effectivement, on en parlait tout à l'heure, les collectivités locales parfois font n'importe quoi parce qu'elles sont déresponsabilisées. Il y a ça aussi, il y a de gros problèmes. Les collectivités locales ont moins de moyens qu'avant. En gros, aujourd'hui, plus de la moitié des ressources des collectivités proviennent de l'État. Ce qui n'est absolument pas normal. Donc un élu local n'a quasiment aujourd'hui aucune marge de manœuvre. Et ça, on est toujours dans ce phénomène. À la différence, par exemple, on en parlait tout à l'heure d'un pays comme le Danemark, où les écoles vont être gérées par les villes. Moi, je pense qu'il faudrait revenir à ce système. Alors ça va nous demander de casser un certain nombre de nos schémas, par exemple, mais aller appliquer un vrai principe de subsidiarité, où on traite les problèmes au plus près du terrain. Mais encore faut-il que l'État, que l'administration, veuille faire d'abord confiance à ses acteurs de terrain, à elle, et puis après aux Français aussi. Mais c'est-à-dire aussi que peut-être aux Français de devenir plus citoyens qu'ils ne le sont aujourd'hui et moins passifs quelque part.
C'était une de mes questions, Jean-Baptiste Léon, parce que vous dites faire confiance aux Français, d'accord, mais vous êtes très critique face à ce que vous appelez l'État nounou. Mais aujourd'hui, comment émanciper certains Français qui sont habitués, voire même drogués à l'assistanat et comment, en même temps, on en parlait, enfin Xavier Van Lier le soulignait, et je pense que c'est juste, comment préserver néanmoins un certain soutien légitime aux plus vulnérables.
Ouais. Encore une fois,
question suivante.
Évidemment, j'ai pas la solution comme ça, mais sûr, il va falloir manier à la fois de la carotte et du bâton, et pas le but du jeu, c'est pas de laisser tomber les plus fragiles d'entre nous, les abandonner non plus. Bah, faut s'attaquer à ce qui ne va pas. Il faut en termes de dimension sociale que. Est-ce qu'il n'est pas le cas encore aujourd'hui, hein, c'est beaucoup dit qu'il faut que le travail prime plus que l'assistanat. Et donc il faut revoir toutes sortes de politiques en la matière. Les choses, comme je vous disais tout à l'heure, bougent, mais bougent très lentement. Hein, c'est le grand paquebot France qui a du mal à à avancer. Il y a encore quelques années, 3-4 ans, on n'avait pas de chiffre officiel de la fraude sociale en France. Hein. Il y avait des rapports parlementaires, etc. Il y avait des évaluations de chercheurs privés. Pour la première fois, il y a 2-3 ans, l'État a dit « Ah oui, on estime, parce qu'on est toujours dans l'estimation, qu'il y a 13 milliards d'euros de fraude sociale. » Alors évidemment, c'est beaucoup plus. Mais au moins, voilà, l'État fait cet effort-là. Donc petit à petit, il essaye, au moins, commence à avoir certaines données qui sortent. Mais pour l'instant, les actes ne viennent pas.
Xavier Henlierd.
Est-ce qu'il ne serait pas légitime de voir dans ce système d'un État qui fonctionne à coup de captation, de redistribution, de soutien à la consommation et de délaissement de la production, en fait une sorte de vaste système clientéliste ? Parce qu'il y a ça aussi quand même dans la difficulté à sortir de système, c'est que par cette redistribution, l'État s'achète des clientèles et des clientèles maintenues dans une forme d'assistanat. Donc l'autonomie à laquelle nous rêvons, c'est une autonomie, certes, de libre choix de diriger sa vie, mais aussi une capacité à s'extraire d'un système qui nourrit peu ou prou un certain nombre d'entre nous, voilà, sous une forme de suggestion. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est sympa ce qu'ils nous font. Mais non, quand on n'a plus la possibilité de produire parce que travailler ne rapporte plus et que la seule façon de s'en sortir, c'est de recevoir la béquée, eh bien, on est dans la suggestion et le contrôle, et ça pèse quand même énormément. Les marges de manœuvre se réduisent, d'où cette espèce de système où on refuse de... Enfin, j'ai l'impression qu'on se regarde les uns les autres dans un système de redistribution, on se regarde les uns les autres en disant « Est-ce que lui profiterait pas un peu plus du système que moi ?» Et avec une sorte de schéma mental où les seules réformes qu'on imagine, c'est de rediriger un petit peu plus vers soi au dépend des autres. On le voit avec la...
C'est exactement ce que disait Roger Douglas, donc, qui a été un des pilotes des grandes réformes en Nouvelle-Zélande dans les années 80. Il disait justement « Il faut pas tomber dans ce travers que les uns... » certains secteurs ou certaines personnes deviennent envieuses vis-à-vis d'autres. C'est pour ça que lui parlait, ce que je disais tout à l'heure, il faut faire vraiment un grand paquet de réformes pour que tout le monde, quelque part, soit impacté. Parce que, par exemple, il s'est attaqué aux subventions des agriculteurs, il a revu complètement le système des hôpitaux. Ils ont tapé, nos Zélandais ont à peu près tapé partout pour éviter que, justement, que certains se sentent plus poliés que d'autres et qu'on ne soit pas dans cette course à « lui, il a des privilèges et moi, j'en ai pas ». Quoi.
Ouais. Oui, il ne faut pas changer le menu, il faut renverser la table.
Ouais, bah, c'est ce qui s'est passé, mais à chaque fois, c'est passé dans les pays où ça s'est passé. Il fallait le faire parce que ces pays-là étaient dans de grandes difficultés. Ouais.
Alors, c'est intéressant parce que quand on parle de clientèle, est-ce que vous savez comment la gauche se constituait des clientèles ? En tout cas, quand moi j'étais jeune, je viens d'une ville du Nord-Pas-de-Calais, et quand j'étais fauché, on pouvait aller demander du travail, en fait, tout simplement, on se débrouillait pour trouver du boulot. Et les élus de gauche de l'époque, alors aujourd'hui, je suppose que ça a changé, évidemment, hein, on se doute bien que ça n'existe plus, mais on me disait, en gros, d'abord, inscris-toi sur les listes électorales, ensuite, fais quelque chose, en gros, pour nous, quoi, littéralement, hein, il y avait quand même une forme de clientélisme, incite tes copains à aller s'inscrire, et puis ensuite, va chercher des aides sociales à tel bureau, et à l'arrivée des élections, généralement, la gauche ouvrait un certain nombre de bureaux provisoires qui distribuait des aides sociales de la part de la mairie à tous les cas sociaux, il faut bien le dire comme ça, notamment du chemin vert à Boulogne-sur-Mer, pour ceux qui connaissent. C'était vraiment très très impressionnant, et ça se passait vraiment comme ça. C'était comme les Romains au temps du pain et des jeux, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une distribution d'aides sociales, à condition de s'inscrire sur les listes électorales, et ensuite on pointait pour voir si vous étiez bien allé voter. On n'allait pas jusqu'à nous donner le bulletin de vote précoché avant d'entrer dans l'urne, mais il y avait un vrai contrôle.
Vraisemblablement, à 17h, il y avait un gars dans le bureau de vote qui regardait qui n'avait pas été voté et qui envoyait ensuite quelqu'un chercher au vote celui qui n'était pas venu.
C'est possible, oui, ah oui. Peut-être. Oui, oui.
Ah non, mais ça, j'en étais témoin à Marseille.
Vous avez entendu.
Les élus, notamment communistes à l'époque, avaient la liste électorale à la main et appelaient les uns après les autres. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, et allaient appeler les uns après les autres tous ceux qui n'étaient pas venus en leur expliquant que c'était fini dans le potentiel s'ils ne se pointaient pas. Et ensuite, pour couronner le système, ils vérifiaient que la personne ne prenait qu'un seul bulletin et le grondait s'il prenait plusieurs bulletins sur la table, parce que là, on n'était pas sûr que, voilà, dans un élan, il puisse en choisir un autre.
Eh ben c'est pire que Boulogne-sur-Mer. Donc. Arthur de Vatrigan.
Oui, vous avez dit que vous voyez des signaux, alors faibles, mais des signaux positifs. Lesquels ?
Justement,
il gâche la fête.
Non, ça va, je vais être positif pour aussi.
Les abonnements à l'incorrect qui augmentent.
Ouais, mais ça, je vois pas le lien avec la dette.
Non, déjà une petite musique, là encore encore une fois des évaluations qui sont faites aujourd'hui l'État qui n'étaient pas faites auparavant sur toutes sortes de problèmes. On entend quand même, les sujets sont vraiment sur la table aujourd'hui. Il y a encore 5 ans, toute l'actualité politique ne tournait pas autour du budget. C'est-à-dire que ce sont vraiment venus, alors c'est peut-être inquiétant en un sens, mais ce sont devenus de vrais sujets. Il y a une trentaine d'années, Contribuables Associés, c'est un peu Saint-Jean-Baptiste qui rentre dans le désert, véritablement. Ces sujets-là, notre association les a mis en avant en disant aux Français, attention, on va dans le mur, faut agir le plus tôt possible parce que ça va devenir compliqué. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, ces sujets sont sur la table. Déjà, quelque part, on essaye de faire les bons constats. Ben, voilà, au moins, on en parle. Après, ce qui en est fait au Parlement ou ailleurs, c'est autre chose. Mais au moins, je pense qu'il y a une forme de conscientisation des Français. Tous ces enjeux-là, ça y est, on commence à en entendre parler, on commence à y réfléchir. Et c'est le début d'un commencement de quelque chose, je pense, qui est positif pour le coup.
Alors malheureusement, le temps nous presse. Est-ce que vous pourriez, pour conclure, nous donner quelques pistes? Imaginons que vous êtes ministre de l'économie, du budget demain.
Je pense...
Quelles sont vos premières mesures
Une première mesure, d'abord, c'est le gel de... C'est le gel du recrutement dans la fonction publique.
Encore une fois, y compris territorial.
Et puis administration sociale, dont on parle assez peu. J'aime beaucoup cette formule de Xavier Fontanet, qui a été un grand entrepreneur français, qui dit que la France est un pur sang, mais dont le cavalier est obèse. Voilà. C'est un peu ça. C'est vraiment ça, parce que quand vous voyez le PIB, on fait comparaison PIB marchand, non marchand, en fait, cette fonction publique qui est par ailleurs extrêmement utile, dont je ne veux pas le mal, mais elle est devenue vraiment hypertrophiée et au détriment du secteur privé qui est là pour créer les richesses. Donc oui, ce gel de recrutement hors régalien, je dis bien hors régalien, dont la fonction publique me paraît très important.
Alors avant de conclure, Xavier Vandeleer, d'un dernier mot.
Oui, est-ce que pour sortir de système, il ne faudrait pas valoriser ou mettre plus en avant un autre chiffre qui pourrait permettre de changer de paradigme, c'est celui de la balance commerciale. Parce que oui. Tant qu'on est sur la dette et autres, bon, on joue encore dans cette espèce de cours où on se dit qu'est-ce qu'on peut dépenser dans le magot qu'on a, comment on peut aller capter un petit peu plus ou raboter les dépenses, alors que balance commerciale, en fait, ça met des chiffres et une vision sur la situation qui est réellement la nôtre dans le monde, c'est-à-dire d'être en situation quand même de
déclassement.
De déclassement, et voilà. Pour avoir plus à distribuer, faut aussi plus produire et puis
rentrer. Mais pour plus produire, faut moins d'impôts aussi. Aujourd'hui, nos entreprises sont à l'os parce que elles sont trop chargées entre guillemets. Ouais.
Bon, mais ça me semble quand même un indicateur intéressant.
Tout à fait.
C'est vrai. Bravo Xavier Vandeleer. Sur ces forts propos, nous allons nous quitter là. Merci beaucoup Jean-Baptiste Léon.
Merci à vous.
Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre noir de l'argent public aux éditions Hugo Doc. On se retrouve dans un instant pour dire du mal d'Ouria Boutelja, pour dire du mal de Jean-Luc Mélenchon, pour parler de X qui est mis à l'amende par la Commission européenne et pour parler d'Arthur de Vatrigan au poste de police. À tout de suite.